Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce 13-14 sur France Inter, à la une aujourd'hui. Comme si la crise n'avait pas eu lieu, l'activité économique retrouve ses niveaux d'avant Covid. 3% de croissance au troisième trimestre, résultat meilleur que prévu, salue le ministre de l'économie. On vous explique les ressorts de cette performance dans un instant. Cette reprise-là, on ne la souhaite pas, mais l'épidémie de Covid fait son retour. Confirmation par les chiffres de Santé publique France. Le président lui prépare un hommage auprès de 118 000 morts français de la Covid. Intention saluée par Lionel Petitpas, représentant d'une association de victimes.
Je suis très content parce que ça finalise quand même le combat que je mène depuis un an et demi, mais pas que moi. J'ai toujours dit que je ne lâcherai jamais l'exécutif et qu'il faudra que cet hommage se mette en place.
Reportage à suivre. Dans le journal encore, la bataille se poursuit entre Londres et Paris autour des autorisations de pêche post-Brexit. Question qui oppose toujours les deux pays. Le capitaine du chalutier britannique immobilisé au Havre avait-il une licence pour pêcher dans nos eaux ? Non, dit la justice française. Oui, affirme son avocat, on l'entendra dans ce journal. Et puis dans la deuxième demi-heure du 13-14, Facebook dans l'œil du cyclone. L'entreprise américaine rebaptisée Meta la nuit dernière suscite les attaques ces derniers jours. Les lanceurs d'alerte l'accusent de ne pas lutter contre la haine. La faute aux algorithmes, peut-être. Notre invité à 13h30, c'est Aurélie Jean, auteur de « Les algorithmes font-ils la loi ? » Vos questions 01 45 24 7000. Enfin, suspense insoutenable, on vous dévoilera l'identité de celle qui a remporté les 220 millions d'euros de l'euro-million. C'est une Polynésienne et tenez-vous bien, elle jouait pour la toute première fois. Le 13-14, vous avez le menu.
France Inter. Le 13-14.
Un résultat exceptionnel qui va au-delà de nos espérances. Les mots du ministre de l'économie et des finances aujourd'hui face aux chiffres de la croissance pour le troisième trimestre en France. La richesse produite dans le pays a augmenté de 3%, soit la plus forte hausse depuis 1968 en dehors du rebond post-Covid de l'an dernier. L'activité économique revient presque à son niveau d'avant-crise. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
C'est 3% pour le troisième trimestre. Selon l'INSEE, ça dépasse effectivement toutes les prévisions.
Oui, jusqu'à présent, on anticipait un retour au niveau d'activité d'avant-crise pour la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Eh bien, nous y sommes déjà après ce bon troisième trimestre pour l'économie française. La croissance est trois fois plus vigoureuse qu'au trimestre précédent. La France fait même mieux que l'Allemagne, qui doit se contenter d'1,8% de croissance au troisième trimestre. Même si l'économie française stagnait dans les mois qui viennent, la croissance sur l'ensemble de l'année resterait supérieure aux attentes, aux alentours de 6,5%. Un net redémarrage de l'activité économique compte encore confirmer avant-hier les bons chiffres de l'emploi.
Mais Fabien, le moteur de ce rebond, l'un des moteurs, c'est la consommation et dans quel secteur ?
Enfin, logiquement, dans les activités de loisirs et de tourisme, puisque le troisième trimestre de l'année correspond au mois de juillet, août, septembre. Et les Français ne se sont pas privés cet été. La consommation dans l'hôtellerie-restauration bondit de 60%. Cette hausse explique à elle seule, nous dit l'INSEE, la moitié de la croissance globale de l'économie française. Il y a aussi les transports qui augmentent fortement. C'est vraiment la consommation des particuliers qui tire les chiffres vers le haut. Encore faudrait-il que l'inflation ne vienne pas gâcher la fête dans les prochains mois. L'investissement des entreprises se montre, lui, quasi stable par rapport au trimestre précédent. À noter enfin, Marion, une légère embellie du commerce extérieur qui revient dans le vert après deux trimestres en négatif grâce à une accélération des exportations.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter, merci. La France fait mieux que la zone euro qui affiche 2,2% de croissance au troisième trimestre. L'économie qui reprend un peu partout dans le monde, avec tout de même une ombre qui plane, celle des pénuries liées à la reprise de la demande. Amazon et Apple déçoivent les investisseurs malgré leurs chiffres d'affaires en hausse. Le géant américain du commerce a du mal à recruter. La marque à la pomme, elle, souffre du manque de silicone, essentiel pour fabriquer les puces électroniques. À propos des GAFAM, ne dites plus Facebook, mais Meta, c'est le nouveau nom de l'entreprise californienne. Maison mère de Facebook, donc, mais aussi WhatsApp et Instagram. Meta, allusion à Métavers, le nouvel horizon de Facebook, un univers virtuel parallèle. Changement de nom en pleine tourmente pour la société, accusée de ne pas lutter efficacement contre la diffusion de contenus haineux. Facebook en crise. On en reparle à 13h30 sur France Inter avec notre invité Aurélie Jean, docteur en sciences et entrepreneur, auteur du livre « Les algorithmes font-ils la loi ?» Vos questions 01 45 24 7000. Un mot encore sur le numérique et et ses usages. Si vous aviez un vieux téléphone, attention, la messagerie WhatsApp pourrait cesser de fonctionner sur votre appareil le 1er novembre. L'application cesse de faire les mises à jour pour les plus vieilles versions des systèmes d'exploitation. On vous l'apprenait ce matin sur France Inter, le gouvernement prépare un hommage national aux 117 622 victimes de la Covid, et ce, avant la fin du quinquennat. Reste à savoir quand exactement. Emmanuel Macron veut attendre que la crise soit derrière nous. Ce pourrait être en mars, 2 ans après le premier confinement. Cela répond en tout cas à une demande pressante des associations. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Des associations qui saluent cette décision aujourd'hui.
Oui, je viens de parler à Lionel Petitpas. Il a créé en mai 2020 l'association Victimes du Covid-19, quelques semaines après la mort de son épouse. Apprendre cette nouvelle aujourd'hui, 29 octobre, est particulièrement émouvant pour lui.
Mon épouse est décédée le 29 mars. Et effectivement, chaque 29 de chaque mois, je me rends au cimetière pour aller me recueillir.
Ce retraité de 72 ans qui vit près de Reims est donc passé ce matin en écoutant France Inter, de la colère au soulagement.
Je suis très content parce que ça finalise quand même le combat que je mène depuis 1 an et demi, mais pas que moi. J'ai toujours dit que je ne lâcherai jamais l'exécutif et qu'il faudra que cet hommage se mette en place.
Mais parce qu'il le dit lui-même, il est têtu et obstiné.
Le président de la République, je lui ai écrit 5 fois, lui demandant d'être reçu. Peut-être que l'on se rencontrera lors de l'hommage, enfin, j'espère. Le Premier ministre, pareil, je lui ai écrit 4 fois. J'ai à peu près écrit entre 400 et 500 lettres à différents députés sénateurs.
Et sa pétition a aussi recueilli 35 000 signatures. Alors maintenant, quand et comment organiser cet hommage? Le mois de mars, vous le disiez, 2 ans après le début de la crise, est envisagé. Le président de l'association de victimes n'y est pas favorable.
Tout simplement parce qu'au mois de mars 2022, on sera près des échéances politiques. Et moi, depuis le départ, je tiens à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique de cet hommage.
Sur la forme, en revanche, Lionel Petitpas a une idée précise, une chanson qui permettrait de récolter des fonds destinés à la création d'un mémorial.
La crise sanitaire, cependant, n'est pas encore derrière nous. Les hospitalisations reprennent, tout comme les entrées en réanimation. Sur une semaine, le nombre de contaminations à la Covid dépasse les 6 000 par jour. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
L'Agence Santé publique France publie ses chiffres hebdomadaires et le taux d'incidence repasse au-dessus de 50 dans près de la moitié des départements.
Oui, la reprise épidémique se confirme, constate Santé publique France, avec une hausse de certains indicateurs pour la 2e semaine consécutive. Le taux d'incidence augmente dans 3 départements sur 4 et vous le disiez, Marion, est repassé au-dessus du seuil d'alerte dans 44 départements. Pour la première fois depuis la fin août, le nombre de nouvelles hospitalisations est en augmentation, mais elle reste pour le moment modérée, rassure l'agence de santé. Ce qui est moins rassurant, même si on s'y attendait, c'est la baisse du nombre de tests réalisés depuis la fin de la gratuité systématique et plus fortement chez les 20-29 ans, on approche des moins 40%, ce qui complique la surveillance de l'épidémie en pleine reprise.
Et faute de tests massifs, Hélène, l'analyse des eaux usées confirme que le virus reprend de la vigueur.
Oui, le réseau Obépine analyse les eaux de 200 stations d'épuration qui reflètent la diversité du pays. Certes, il ne couvre pas tout le territoire, mais ça représente quand même 33% des Français. Selon les dernières tendances, la moitié des stations voient leurs signaux soit ne plus baisser, soit même repartir à la hausse. Vincent Maréchal est professeur de virologie à la Sorbonne Université et cofondateur d'Obépine.
On a l'impression donc d'une reprise un peu comme des brindilles qui repartiraient après un incendie. C'est quelque chose de très disséminé. Pour l'instant, il n'y a pas de territoire plus marqué que d'autres. C'est très disparate, avec des niveaux de circulation qui sont également très variables. Il y a des régions de France ou des villes dans lesquelles le virus est devenu indétectable dans les eaux usées. Et puis d'autres territoires, là on a cité Bordeaux, Lille, mais évidemment il y en a d'autres, avec des niveaux de circulation qui repartent. Et certains ont des niveaux de circulation déjà assez significatifs.
Ouais, pour certaines stations, le niveau est le même que celui détecté il y a un an avant la 2e vague. Alors de là à dire que nous sommes au début d'une 5e vague, c'est bien trop tôt. Mais le virologue insiste, il faut absolument que les Français se ressaisissent sur les gestes barrières et que les personnes éligibles fassent leur dose de rappel vaccinal.
Hélène Chevalier, chef du service Sciences et Santé de France Inter. L'épidémie repart légèrement, mais les sénateurs n'entendent pas pour autant laisser le gouvernement imposer le pass sanitaire jusqu'à la fin juillet. Le Sénat a voté la nuit dernière pour une prolongation jusqu'à fin février seulement. Députés et sénateurs tentent tenteront de s'accorder la semaine prochaine. Il sera finalement bien là, mardi, au tribunal de Paris. Nicolas Sarkozy ne voulait pas témoigner dans le procès des sondages de l'Élysée. Ces centaines d'études commandées sous son mandat, sans appel d'offres et sur tous les sujets. L'ex-président invoquait son immunité, mais la justice a requis sa présence et l'ex-chef de l'État a dit oui. Inutile donc de faire intervenir la puissance publique. Direction maintenant la cour d'assises spéciale de Paris. Pour arrêt sur audience, notre chronique du vendredi sur le procès des attentats du 13 novembre. Les moments forts et les coulisses aujourd'hui, c'est avec Charlotte Piret. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Une étape s'achève, celle de l'audition des parties civiles. Aujourd'hui, des présidents d'associations et des experts psychologues témoignent. Charlotte, ce qui vous a marqué, vous, ce sont cette semaine les familles endeuillées à la barre qui se sont retrouvées réunies dans le deuil.
Oui, elles, ce sont les dernières parties civiles qui ont témoigné après 5 semaines d'audition où elles sont, se sont succédées à plus de près de 300. Et on a eu notamment ces familles qui auraient pu être unies autour de petits-enfants ou dans un mariage et qui finalement se sont retrouvées unies dans le deuil. Il y a notamment eu les deux pères de Marie et Mathias. Ils ont témoigné ensemble à la barre. Ils étaient les pères de ces deux enfants uniques de 22 et 23 ans, ce très jeune couple, et qui sont venus raconter leur chemin de résilience à deux et à quatre, même si on compte les deux mamans, et la manière dont ils ont surmonté leur deuil, notamment en créant une association pour aider d'autres jeunes. On a également eu l'histoire de ce couple franco-chilien dont les familles se soutiennent dans ce drame par-delà l'Atlantique et sont donc toujours liés au-delà de ce qui leur est arrivé et au-delà de ce qu'ils espéraient pouvoir construire ensemble.
Cette semaine, Charlotte, on a entendu aussi les paroles des premiers professionnels arrivés au Bataclan, choqués par ce qu'ils ont découvert.
Oui, on a eu les policiers de la BAC Nuit, par exemple. Ce sont les premiers à être intervenus juste après ce commissaire qui a fait usage de son arme et qui a permis la neutralisation du premier des trois terroristes. Il y a également eu à la barre les médecins du RAID ou de la BRI, donc ces unités d'intervention d'élite. Et tous ont dit leur état de sidération, effectivement, au moment où ils pénètrent dans ce qui est le carnage du Bataclan et la difficulté d'intervenir cette nuit-là, parce que les terroristes, quand ils rentrent dans le Bataclan, sont toujours présents. On suppose que l'endroit peut être totalement piégé et donc les risques qu'ils prennent à titre personnel, à titre professionnel, pour aller intervenir dans la fosse notamment. Les difficultés aussi, nous a confié notamment le médecin du RAID, de devoir faire le tri entre les blessés les plus graves, ceux qui avaient peut-être une chance de s'en sortir et ceux pour qui malheureusement il n'y avait plus grand chose à faire.
Et depuis 5 semaines, Charlotte, vous avez découvert, comme les participants au procès, un vocabulaire spécifique au 13 novembre, des mots particuliers et notamment ce qu'une partie civile a appelé l'alphabet du Bataclan.
Oui, des mots, M-O-T-S évidemment. Et cette expression de l'alphabet du Bataclan, elle vient de la mère d'une victime. En fait, elle fait référence au zonage qui a été effectué par les forces de police pour effectuer les constatations dans la fosse du Bataclan. Et donc, la fosse a été divisée en plusieurs espaces, A, B, C, D, E, F, G, H. Et on sait, au fil du temps, on a découvert notamment que la zone G a été une des zones particulièrement mortifères et que on avait un peu plus de chance quand on se trouvait dans la zone E, par exemple. Donc, ces termes-là sont revenus effectivement à la barre. Et puis, ils viennent s'ajouter à d'autres mots qu'on a beaucoup entendus au cours de ces 5 dernières semaines, notamment ces notions de culpabilité du survivant, de légitimité à être victime ou pas, ou les termes liés au syndrome du stress post-traumatique, ou les méthodes aussi pour y remédier, comme la méthode EMDR, par exemple.
Charlotte Piret avec les moyens techniques de Julien Girard pour France Inter. Merci à tous les deux. Un autre attentat, il y a un an, jour pour jour, le jeudi 29 octobre 2020, à Nice, à 8h45 du matin, un homme tuait 3 personnes dans la basilique Notre-Dame, dans le centre-ville. 2 fidèles, l'une niçoise et l'autre d'origine brésilienne, et le sacristain, âgé de 54 ans. Ce matin, 1 minute de silence a été observée et toutes les cloches du diocèse de Nice ont sonné le glas. Rosemonde, une habitante de Nice, est venue se recueillir devant la basilique.
Je me suis arrêtée exprès parce que je voulais entendre le glas. C'était important. Pour moi, c'est beaucoup.
Moi, je suis arrière-grand-mère, alors il y a les enfants d'une des victimes aussi.
C'est pas ma paroisse, mais le matin de l'attentat, j'étais dans le tram. Et en général, je m'arrête et je vais dans l'église, là, quand je vais dans le centre. Et puis ce matin-là, on nous a dit d'aller beaucoup plus loin. Voilà, j'étais dans le tram ce matin-là.
Émotion de cette niçoise au micro de Marion Chantreau de France Bleu Azur. L'assaillant présumé, un Tunisien âgé de 22 ans, est mis en examen et emprisonné à Fresnes, en région parisienne. Lui sera entendu par la justice en août prochain. Le capitaine du chalutier britannique, immobilisé au Havre, vient de recevoir sa convocation. Contrairement aux affirmations de Londres, l'homme n'avait pas en effet de licence pour pêcher dans les eaux françaises, selon le parquet. Bonjour Cécilia Arbona.
Bonjour Marion.
Alors tout ça se déroule sur fond de tension entre le Royaume-Uni et la France. Paris accuse Londres de ne pas respecter les engagements post-Brexit sur la pêche, de ne pas accorder leur licence au capitaine français. Bref, dans ce contexte, que va-t-il se passer pour le capitaine du chalutier britannique ?
Alors on a joint tout à l'heure maître Mathieu Croix, il est avocat, il a été mandaté par l'armateur écossais du bateau et il nous annonce très sereinement que l'équipage n'a rien à se reprocher.
Pour nous, le navire était parfaitement en règle et a priori, il y a un problème de gestion administrative des licences par soit les autorités britanniques, soit les autorités européennes, soit françaises. Notre licence était valide et nous l'avions d'ailleurs à bord.
Alors il faudra attendre l'audience du 11 août 2022 pour savoir si oui ou non cette licence est réglementaire. En tout cas, le bateau lui est bloqué, quai Herman de Pasquier dans le port du Havre. Une procédure de saisie administrative du navire est engagée. Le montant de la caution financière sera fixé dans le week-end. Les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, eux, sont libres. Maître Mathieu Croix.
Alors oui, je pense qu'il le paye un peu dans le traitement en fait du dossier. Le capitaine et l'équipage sont libres de bouger, il n'y a pas de mesure coercitive à leur encontre. Malheureusement, avec le contexte, il se trouve un petit peu victime de la situation et du coup ça prend une ampleur et des délais aussi qui sont peut-être un peu excessifs.
Vous l'avez entendu, pour l'avocat spécialisé en droit maritime, toute cette équipe de pêcheurs paye très cher une affaire qu'il qualifie de toute simple et qui est selon lui montée en épingle à cause du bras de fer que se livrent ces jours-ci la France et le Royaume-Uni sur les droits de pêche dans la Manche.
Cécilia Arbona pour France Inter, merci à vous. L'ambassadrice française à Londres, elle est convoquée par le gouvernement britannique cet après-midi. Le commissaire européen Thierry Breton appelle les Britanniques à revenir à la raison. L'actualité diplomatique, c'est aussi aujourd'hui le G20, sommet des plus grands dirigeants mondiaux qui s'ouvre demain à Rome. Le président chinois Xi Jinping n'y sera pas, mais le chef de l'État américain, lui, est déjà sur le sol italien. Joe Biden a rencontré ce matin le pape François. Il a rendez-vous cet après-midi avec Emmanuel Macron, premier tête-à-tête depuis la crise des sous-marins et le méga contrat australien rompu avec la France pour l'attribuer à Washington. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Marion.
Le président américain arrive à ce sommet dans une position de fragilité à cause de ses difficultés en politique intérieure et internationale.
Oui, Joe Biden espérait sans doute arriver à Rome en ayant déjà bouclé chez lui aux États-Unis son colossal plan d'investissement consacré aux infrastructures, à la transition énergétique et à la politique sociale. Or, l'adoption de ces projets qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars se heurte aux réticences de plusieurs élus de son propre camp, ce qui a obligé le président américain à réduire de moitié les dépenses promises. Outre cette déception, le président américain traîne le boulet de l'Afghanistan, la débâcle américaine, l'aveuglement des analystes de l'administration Biden, les compromis avec les talibans n'ont pas seulement contribué à l'effritement de son image, la communauté internationale en a tiré les leçons et fait désormais un peu moins confiance aux États-Unis en matière de sécurité. Le dossier des sous-marins australiens, dont le contrat a été rompu dans le dos de la France au profit d'un nouveau partenariat stratégique Australie-États-Unis-Grande-Bretagne, n'améliore pas cette image sur le plan international. Là aussi, la confiance s'étiole. Les interlocuteurs de Washington comprennent que la doctrine America First est solidement ancrée dans le mode de gouvernance aux États-Unis, avec toutes les conséquences que cela implique, y compris envers les alliés de la première puissance mondiale.
Et le chemin sera long et exigeant pour restaurer la relation entre France et États-Unis, dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement français. Le pape François appelle, lui, les dirigeants à apporter des réponses efficaces à la crise écologique. Message symbolique à 2 jours de l'ouverture de la COP26, réunion de 200 pays en Écosse, pour tenter de contenir le réchauffement sous les 1,5 degré depuis le début de l'ère pré-industrielle. Mais cet objectif est-il à la portée ? de cette COP26. Ce sera difficile, hein, d'autant que les présidents chinois et russes, deux très gros pollueurs, ne participent pas au rendez-vous. Les discussions doivent durer 2 semaines. L'échec n'est pas une fatalité, veut croire Laurence Toubiana, une des architectes de la COP21, aujourd'hui directrice de la Fondation européenne pour le climat.
Oui, on a encore des chances, et même Glasgow d'ailleurs n'est pas la conférence de la dernière chance. On a des chances parce que depuis 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans différents secteurs économiques. Il y a des pays qui ont fait vraiment, qui ont pris des engagements importants, comme en particulier l'Europe, et même aujourd'hui les États-Unis en revenant dans l'accord de Paris. Il y a même des pays émergents qui ont aujourd'hui des plans climat qui sont beaucoup plus en accord avec l'accord de Paris que ce qui était évidemment sur la table en 2015. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Glasgow, c'est plutôt un moment de remobilisation pour que tout le monde accélère l'action.
Laurence Toubiana chez nos confrères de France Info. En attendant, les nouvelles règles environnementales provoquent l'inquiétude, notamment dans le secteur automobile, avec cet objectif de voitures neuves zéro émission pour 2035 qui accélère la transition vers l'électrique. Le puissant syndicat allemand de la métallurgie IG Metall mobilise aujourd'hui pour soutenir l'avenir de l'industrie. Ludovic Piétenu, correspondant de France Inter en Allemagne, était dans le cortège berlinois.
Ces salariés ne refusent pas la transition, ils la vivent déjà. Les grands groupes industriels allemands dépensent des centaines de millions d'euros pour verdir leur production, mais cette transition les inquiète. Catherine travaille depuis 15 ans pour un sous-traitant automobile. Avec ses collègues, elle a été mise au chômage partiel l'an dernier et encore cette année, depuis le mois de juillet jusqu'à fin décembre, et peut-être au-delà.
Nous sommes tous très inquiets de perdre nos emplois. Il y a beaucoup de problèmes dans l'industrie automobile. La production chez les constructeurs tourne au ralenti et derrière, ce sont les sous-traitants temps qui trinque. Nos entrepôts sont pleins, mais il n'y a plus de demande.
Udo travaille, lui, depuis plus d'une décennie pour Airbus. Il est aussi inquiet pour son emploi et conscient qu'il faut protéger l'environnement.
Nous avons eu des étés très chauds en Allemagne. Nous venons de vivre aussi des inondations catastrophiques. Je crois que beaucoup de choses ont changé dans l'esprit des gens ces dernières années et nous ne devons pas continuer comme ça. Mais j'ai bon espoir dans la future coalition gouvernementale que des partis qui n'ont pas toujours parlé d'une seule voix se réunissent pour régler les problèmes. Je pense que c'est un concept d'avenir.
IG Metall, premier syndicat allemand, propose pour sauver des emplois d'ouvrir des négociations pour la semaine de 4 jours et en même temps améliorer les formations pour accompagner et mieux protéger les salariés tout au long de cette transition. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Du climat à la météo, les intempéries reviennent chez nous. 3 départements du sud-est sont en vigilance orange aux pluies et inondations. Ardèche, Gard et Lozère, le point complet sur la météo juste avant 13h30 sur Inter. Pour l'instant, il est 13h22. La scène se déroule aux États-Unis dans l'état de l'Oklahoma la nuit dernière. Un Afro-Américain de 60 ans, condamné à mort en 2000 pour le meurtre d'une employée de sa prison, reçoit l'injection létale. Il convulse et se met à vomir. Montré du doigt, le produit injecté par les bourreaux. L'événement s'inscrit dans une baisse générale du nombre des exécutions aux États-Unis, une peine capitale de plus en plus critiquée là-bas. Simon Grivet, spécialiste de la justice aux États-Unis.
Moi, mon diagnostic, qui s'appuie sur la longue durée plutôt, c'est effectivement qu'on est à un moment de crise pour la peine de mort aux États-Unis. Un faisceau de raisons, à la fois sur les questions d'innocence, de coûts, et puis à cause de ces exécutions ratées qui se produisent avec une certaine régularité. Donc tout ça joue très fort. On est à un niveau de défiance vis-à-vis de ce châtiment qui est inégalé depuis 50 ans, 60 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les différences d'opinion entre pour et contre sont vraiment très régionalisées. C'est-à-dire que la peine de mort a disparu dans le Nord-Est, dans le Midwest, en grande partie dans l'Ouest, mais reste très vivace et globalement soutenue dans le Sud, par exemple. Je peux donner ma main à couper qu'au Texas, s'il y avait un vote, les 3/4 des gens seraient encore en faveur de la peine capitale. Paradoxalement, c'est l'injection létale qui a eu en pourcentage le plus d'exécutions ratées que les autres modes traditionnels comme la chambre à gaz, la chaise électrique ou la pendaison. Comme c'est un acte médical qui est réalisé par des gens qui ne sont pas des médecins mais des bourreaux, régulièrement on a des échecs épouvantables. Ça a cette image de panacée et en fait sur le long terme c'est une catastrophe.
Simon Grivet joint par Clémence Pénard pour France Inter. Her Majesty is back. La reine Elisabeth, privée de la COP26 par ses médecins pour cause de santé fragile, est réapparue hier soir aux yeux des Britanniques. Apparition virtuelle via Twitter. Le palais a diffusé des images de la souveraine remettant par vidéo interposée sa médaille d'or de la poésie. Elisabeth Elisabeth a, on le rappelle, 95 ans. J-1000 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la France peut compter sur le soutien d'une icône. Le footballeur Kylian Mbappé, l'attaquant français champion avec les Bleus en 2018, déclare sa flamme au JO. C'est assez rare pour être noté car les dates olympiques ne collent pas du tout en général avec le calendrier des compétitions FIFA. Alors Adèle Benoumri, Kylian Mbappé pourra-t-il ou non aller au JO ?
Le champion du monde l'a déjà dit, il ne se gênera pas pour inclure une clause dans son futur contrat. Que ce soit avec le PSG ou un autre club, Kylian Mbappé veut à tout prix être libéré lors des JO à Paris et éviter la mésaventure qu'il a connue cet été pour les Jeux de Tokyo quand le PSG avait refusé de le libérer. Car le tournoi de foot olympique ne fait pas partie du calendrier de la FIFA, les clubs ne sont donc pas obligés de laisser leurs joueurs aux sélections olympiques. C'est pour cela qu'à Tokyo, les Bleus ont été éliminés piteusement dès le premier tour, faute d'un effectif de faible qualité. Alors en 2024, Kylian Mbappé compte bien aller chercher la médaille d'or. Encore faut-il savoir s'il aura toujours de l'énergie. Été 2024, il y a aussi l'Euro en Allemagne qui pourrait se terminer en juillet. Et si la France va au bout, Kylian Mbappé aurait une dizaine de jours pour se préparer avec la sélection olympique. Et si les Bleus vont en finale, le natif de Bondy aura alors joué environ 70 matchs en une saison.
Il remporte le prix littéraire décembre. Xavier Galmiche vient d'être récompensé pour son livre « Le poulailler métaphysique » publié aux éditions du Pommier. À la clé, 15 000 euros de prix. Elle a gagné, elle aussi. C'était juste une question de chance, mais quand même. C'est une Polynésienne qui remporte la plus grande cagnotte euro-million de l'histoire, 220 millions d'euros. De quoi s'acheter 9 Rolls-Royce, 2 Airbus A320 ou 275 000 kilos de truffes. La gagnante a participé au tirage le 15 octobre dernier à Papeete, à Tahiti. Et c'est assez incroyable, c'était la première fois de sa vie qu'elle jouait. Isabelle Césari, responsable des relations gagnants du groupe français des Jeux, lui a remis le gros chèque.
Elle voyait souvent son grand-père jouer, qui jouait régulièrement. Et souvent, elle le narguait un peu en lui disant « Si un jour, moi, je joue, eh bien, je vais gagner. » C'est assez amusant parce qu'elle a eu comme une intuition et elle s'est dit « Voilà, c'est le moment, je vais aller valider une grille pour la première fois. » Tout simplement, elle a fait un flash, donc c'est-à-dire qu'elle a laissé la machine choisir pour elle. Elle nous dit qu'elle a ressenti un peu comme un frisson au moment d'aller saisir son reçu de jeu pour vérifier qu'il était gagnant. Très vite, elle a vu qu'elle avait tous les numéros. Elle nous a confié qu'elle le changeait d'endroit, d'abord sous son matelas, puis dans ses vêtements. Et puis à un moment donné, elle s'est dit « mais je vais plus me souvenir où je l'ai mis ». C'est vrai qu'il y a souvent comme ça des histoires assez drôles de cachettes pour les reçus. Et donc, et ben, à la clé, 220 millions d'euros, qui est donc le record absolu de toute la communauté Euromillions.
Et elle vous a dit ce qu'elle allait faire de cet argent ?
Très spontanément, ce qu'elle a déclaré, c'est qu'elle voulait voyager. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais vu la neige, et donc elle rêvait de voir la neige. Elle a vraiment à cœur aussi de soutenir des causes solidaires en lien avec l'enfance et elle souhaite s'engager sur cette voie-là également.
Isabelle Césari de la Française des Jeux, jointe par Julien Morcelli pour Inter, le dernier jackpot record s'élevait à 200 millions d'euros seulement. À suivre, Facebook dans l'œil du cyclone, on en parle avec notre invité, l'auteur de « Les algorithmes font-ils la loi ?» Vos questions, 01 45 24 7000.
On peut gagner en confiance, gagner en patience, gagner une seconde chance, gagner avec classe, gagner avec aisance, avec sa différence, gagner une nouvelle vie et gagner sa place.
Faire gagner l'égalité des chances pour FDJ, c'est agir pour l'insertion des plus fragiles grâce à notre fondation. FDJ et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 54 ans. Certes, je ne suis pas fortuné, mais cela ne m'empêche pas d'être solidaire. J'ai décidé de faire bénéficier le Secours Populaire de mon assurance vie, car je lui fais entièrement confiance pour aider les personnes les plus démunies près de chez moi.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
France Inter présente
H24, la série manifeste Arte contre les violences faites aux femmes. 24 heures, 24 femmes, 24 histoires écrites par 24 autrices.
Ça arrive tous les jours, tous les putains de jours, H24, obligés de supporter les regards, les insultes, les attouchements.
Une série de Nathalie Masduro et Valérie Urrea, inspirée de faits réels et interprétée par 24 actrices, dont Diane Kruger, Camille Cotin ou Anaïs de Moustier. Retrouvez H24 sur Arte et la plateforme arte.tv. En partenariat avec France Inter.
La météo pour votre vendredi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Marion.
On le disait dans le journal, 3 départements en vigilance orange.
Oui, effectivement, et nous prévoyons un épisode de Sevenol entre ce soir et dimanche matin, justifiant le déclenchement d'une vigilance orange sur les départements de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche. On attend durant cet épisode entre 200 et 300 mm de pluie. Et en attendant, cet après-midi, nous allons retrouver une perturbation pluvieuse ondulant dans un flux de sud entre la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France, en passant par la région Centre et l'Île-de-France. À l'arrière de la Bretagne à la Normandie et jusqu'au Pays de Loire, prévoyez un ciel de traîne avec quelques averses. Et puis à l'avant de la perturbation, le soleil sera souvent voilé. Vous profiterez encore d'un très bon ensoleillement de la Lorraine à l'Alsace et de la Franche-Comté à la Haute-Savoie. Ça sera très nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse, avec en prime quelques averses. Et puis côté température, les maximales évolueront entre 15 et 21 degrés du nord au sud.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci à vous. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
Imaginez un porte-voix qui vous permette de parler à 2 milliards 800 millions de personnes d'un coup. C'est vertigineux. Eh bien, c'est un peu le pouvoir du réseau social Facebook qui vous permet de rester en contact avec vos proches, vos amis et les autres, de partager des contenus et qui empoche au passage 72 milliards d'euros de recettes publicitaires par an, plus que le budget de l'éducation nationale en France. Sauf que Facebook est dans l'œil du cyclone avec les récentes révélations de lanceurs d'alerte comme Frances Haugen, ancienne employée. Elle a révélé récemment de nombreux documents. Pour elle, le géant de la Silicon Valley ignore volontairement que son système met en danger des utilisateurs, des adolescentes par exemple, qui souffrent de problèmes d'image, et que ce même système favorise les messages extrêmes et haineux. Frances Haugen l'a dit devant les députés britanniques cette semaine. Ce que dit la lanceuse d'alerte, c'est « les gens sont exposés à ça ». Facebook dit « regardez tout le bien qu'on fait, oui, il y a de la haine, mais on ne l'a pas inventé ». Ce n'est pas la question. La question, c'est ce que fait Facebook pour amplifier et étendre la haine et la violence. Et vous pensez que ça empire la haine ? Lui demande l'élu. « Oui, ça empire », répond la lanceuse d'alerte. Frances Haugen sera dans une dizaine de jours à l'Assemblée nationale, en France. Pour l'instant avec nous, Aurélie Jean, docteur en sciences et entrepreneur, qui est l'invité de France Inter. Bonjour.
Bonjour Marion Lourd.
Pour parler de Facebook, des algorithmes et de leur régulation, vos questions et témoignages, chers auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. On va commencer peut-être aux religions par l'annonce de la nuit dernière. Facebook qui change de nom, qui devient Meta pour mettre l'accent sur le développement du métavers, cet univers virtuel parallèle. Ça vous inspire quoi ? De l'intérêt, de l'inquiétude ?
Alors, déjà que Facebook change de nom, ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait, Google a fait la même chose en 2015 et s'est nommé Alphabet. C'est une manière assez évidente, en fait, pour mettre en visibilité les différentes activités du groupe. Comme ça, on différencie l'outil Facebook de la marque de l'entreprise qui est maintenant Meta. Donc ça, je trouve ça assez logique, hein. Maintenant, concernant l'envie de Mark Zuckerberg et de la société d'aller investir, explorer tout l'aspect Metaverse, en fait, Metaverse est pour moi une petite inquiétude, parce que ça va être un moyen supplémentaire et amplifié de récolter de la donnée sur nos comportements, mais cette fois dans le monde numérisé encore davantage amplifié. Et donc, à travers ces données, on peut faire beaucoup de choses pour, entre autres, orienter nos opinions et plein d'autres choses.
Pourquoi on peut récolter plus de données avec le métavers qu'avec Facebook,
par exemple ? Je vais vous expliquer. Par exemple, quand vous êtes sur Facebook, vous allez interagir avec la plateforme, vous allez commenter des choses, regarder des contenus, parler avec d'autres gens à travers des commentaires, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que vous avez des comportements sur cette plateforme. De ces comportements, on tire des informations, des données sur vous-même, et donc on va pouvoir mieux vous orienter et vous proposer des contenus en retour que vous allez aimer. Si maintenant vous allez dans un univers numérisé encore davantage, vous allez par exemple pouvoir dans ce monde métaverse, quelque chose qu'il faut encourager pour plein d'autres raisons, hein. Ça vient d'abord du jeu de vidéo et après c'est utilisé dans plein d'autres applications comme la formation virtualisée. On va par exemple pouvoir, je dis n'importe quoi, mais par exemple, à avoir une discussion à table de manière virtuelle avec vos amis, ou encore regarder un film virtuellement avec vos amis, etc. Et donc, à travers ces comportements virtuels davantage granulaires, davantage sophistiqués, on va pouvoir collecter davantage d'informations sur vous, vos comportements et vos interactions en société.
Et est-ce qu'on peut l'éviter, ça ?
Alors, éviter quoi exactement ?
Éviter qu'il y ait des dérives, que ces données, qu'il y ait trop de données collectées. D'accord. Et qu'elles soient utilisées effectivement pour des buts publicitaires.
Bien sûr. Eh bien, c'est là où, en fait, on a déjà un règlement de protection des données à caractère personnel en Europe, donc il y a déjà un encadrement pour ça. C'est là où il faut passer au stade suivant, et c'est tout
le sujet. Parce que le métaverse est mondial, c'est pas européen.
Bien sûr, oui, vous avez entièrement raison. Cela étant dit, Facebook est indirectement influencé par le RGPD pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, Facebook doit être conforme au RGPD, travaillant également avec le territoire européen.
Donc il doit respecter les règles européennes.
Voilà, et deuxième détail, vous avez quand même le texte américain, le texte californien qu'on appelle le CCPA, qui est un texte en fait d'abord sur l'État de Californie, qui est l'équivalent du RGPD, hein, mais qui a été appliqué dans pas mal d'États aux États-Unis, et on pense actuellement à le faire passer à l'État fédéral, donc du pays entier. Et donc, ça existe. Hein. Maintenant, il faut aller à un stade plus haut, qui est le stade de l'algorithmique, et c'est tout le sujet de mon livre, mais comment on fait pour encadrer juridiquement, en fait, les pratiques, les usages, les tests de ces algorithmes pour justement ne pas faire n'importe quoi avec ces données.
Et ça, on va en parler peut-être un peu plus tard. On va continuer peut-être un peu sur le constat. Aurélie Jean, on entendait Frances Haugen tout à l'heure, elle disait Facebook amplifie la haine. Vous êtes d'accord avec elle?
Oui, c'est de par la manière dont ils utilisent leurs algorithmes, en fait. C'est-à-dire que, et c'est directement lié, elle l'a sûrement dit aussi, hein, mais c'est directement lié en fait au revenu, au modèle de revenu de l'entreprise qui est basé principalement sur la consommation accélérée de contenu, donc sur des temps courts de la part des utilisateurs. Et donc forcément, on va davantage mettre en avant des contenus transgressifs, polémiques, haineux, etc. Petit point quand même important, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut éviter ça, mais encore faut-il revoir ta stratégie algorithmique et du coup revoir aussi son modèle économique.
Et justement, alors ce qui est mis en avant, c'est que ça serait un changement d'algorithme qui serait responsable. Ils ont changé leur algorithme Facebook en 2018 et ils devaient favoriser les contenus des proches, des familles. Un algorithme, pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais c'est une sorte de formule mathématique qui permet de résoudre un problème.
C'est une méthode de calcul, pour résoudre un problème. Répondre à une question.
Et qui, donc, permet à Facebook de fonctionner. Mm-hmm. Donc, cet algorithme,
il a changé. Et on a besoin de ces algorithmes, pour un réseau social, hein, sinon le réseau ne fonctionnerait pas.
Mais donc, est-ce que c'est la faute de ce changement si Facebook, aujourd'hui, est mis en cause?
Alors, pour rappeler aux auditeurs, le changement qui a été réalisé en mai 2018 exactement, c'est un changement un petit peu différent. C'est qu'en fait, Facebook a privilégié l'impact et l'influence des groupes par rapport aux individus. Mm. Donc, forcément, quand on avait des effets de groupe sur les réseaux, c'était davantage amplifié. Je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, en fait. C'est un algorithme parmi tant d'autres, et il y a eu plein de choses qui ont été faites, et c'est surtout l'accumulation des effets des algorithmes entièrement anciennement développés qui, encore une fois, vont mettre en avant certains contenus par rapport à d'autres, avec en plus l'effet de bulle, où en fait on va enfermer l'utilisateur dans une bulle d'opinion et d'observation où il va ne voir, au final, que des contenus de gens qui lui ressemblent, donc il ne veut pas voir, donc ça amplifie la théorie du complot, ça amplifie le mensonge, les fake news, etc. Voilà, mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité, et je dis toujours, les algorithmes ne sont pas mauvais, hein, c'est pas comme ça que ça marche, ce sont les gens qui décident de comment les utiliser, les développer. Et encore une fois, un réseau social, tous les algorithmes ne sont pas mauvais sur ces réseaux, et sans algorithmes, les réseaux ne fonctionneraient pas. Maintenant, c'est comment les faire correctement.
Alors, ils ont cet effet d'amplification. Il y a aussi des effets un peu bizarres. Par exemple, en Inde, il y a des vidéos porno qui sont apparues sur des fils d'actualité de personnes qui n'étaient pas forcément intéressées en général par ce genre de contenu. Comment on l'explique ça? C'est l'algorithme qui bug?
Alors, peut-être. Alors, je connais pas exactement, en fait, ce cas-là, donc je pourrais pas le commenter. Ce que je peux vous dire, c'est, par exemple, sur les contenus pornographiques, qui sont pour beaucoup, par exemple, interdits pour des questions d'âge ou autre. Ce qui va se passer, c'est que vous avez des algorithmes qui vont détecter ces contenus. Et en fait, ce que les gens ne réalisent pas, donc il y a une détection par les algorithmes, une détection par des modérateurs humains aussi, il faut le savoir, énormément. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez peut-être, je ne connais pas les chiffres, hein, Marion, mais il y a peut-être 80% ou 90% des contenus qui sont détectés de manière semi-automatique. Mais il en reste toujours.
Des contenus néfastes, vous voulez dire, enfin, voilà. Des contenus qui enfreignent les règles.
Je dis des chiffres, j'en sais rien, c'est peut-être 70%, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a sûrement la majorité des contenus qui sont détectés, sauf que il y a des contenus qui restent, et c'est ceux-là qu'on voit. Et donc, c'est là où aussi, de la part de Facebook et de tous ces acteurs, hein, les algorithmes de détection de haine et de contenus inappropriés, je pense que ces algorithmes-là, vu que ce n'est plus un différenciateur économique, puisqu'ils n'arriveront pas à résoudre le problème individuellement les uns les autres, il va falloir qu'ils s'unissent et rendent ces codes open source, ces algorithmes open source, donc libres, ouverts, pour arriver à tacler ce problème tous ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera.
Donc une forme de transparence. On a Michel qui nous a appelé au standard de France Inter. Bonjour Michel.
Oui, je voulais poser la question suivante. La grande tendance actuelle, c'est de déresponsabiliser les utilisateurs d'un produit. Je ne comprends pas cette attitude. Voilà,
ce que vous dites, c'est qu'on accuse Facebook à tort et que finalement, c'est les usagers qui sont en faute, en clair.
Entre autres, il n'y a pas, mais surtout, on n'en parle jamais.
Alors, merci pour ce commentaire, Michel. Aurélie Jean.
Alors déjà, merci Michel, parce que ce que dit Michel, les gens le disent peu, et c'est important aussi. C'est-à-dire que, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi des usages des algorithmes. C'est important. C'est-à-dire que les utilisateurs, il y a ceux qui mettent des mauvais contenus, et déjà, donc, eux sont responsables. Et puis, il y a une manière de l'utiliser, et c'est vrai que moi, je dis souvent, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et j'aimerais que ces devoirs soient impliqués, mais aussi qu'ils soient encouragés par les propriétaires de ces plateformes. C'est-à-dire que moi-même, quand je développe des technologies, par exemple avec ma seconde boîte, je fais en sorte que les utilisateurs comprennent la technologie un minimum de façon à ce qu'ils puissent bien l'utiliser. Et donc en fait, j'embarque avec moi l'utilisateur, ce que ne fait absolument pas des sociétés comme Facebook, à tort, hein, parce que je pense qu'ils y gagneraient. Et c'est vrai qu'il faut aussi mettre la part de responsabilité avec quand même un petit bémol, c'est que ce sont des outils compliqués. Et donc c'est un effort collectif et individuel de la part de tous pour faire en sorte que les gens comprennent.
Donc là on est plus dans un effort de pédagogie qui devrait venir de
Exactement.
Facebook. Ce qu'ils disent aussi c'est qu'on dépense déjà des millions pour éviter les dérives. Apparemment c'est 0,5% de leurs bénéfices, mais le bénéfice est suffisamment conséquent. Mm-hmm. Qu'ils ont les meilleurs ingénieurs, ils ont une équipe qui est chargée de veiller
c'est vrai,
à tout
oui.
ça. Donc ils font assez aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a deux choses. D'une part c'est que ce sont des problèmes compliqués. On peut pas non plus, par exemple la détection de contenu haineux, vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué de détecter un contenu. Ça peut paraître simple, mais il y a toujours cette zone d'ambiguïté qui est compliquée. Mais ce n'est pas impossible. Donc il faut travailler, mettre en commun les efforts. Et c'est ça où je dis qu'il faut parler d'open source. Maintenant, il y a des choses qui sont compliquées, mais il y a des choses aussi pour lesquelles les efforts ne sont peut-être pas assez faits. Parce que justement, la loi ne les oblige pas, que les enjeux économiques sont très importants. Et c'est en cela où je pense, mais j'en suis vraiment persuadée, c'est que c'est un compétiteur, c'est un différenciateur économique, c'est un compétiteur aujourd'hui de penser qu'on va développer un outil éthique et qu'on va justement faire les choses bien, éviter l'effet bulle. L'effet bulle n'est pas une fatalité. Voilà, et d'essayer d'embarquer...
De grossir en fait un avis radical.
D'amplifier de manière incohérente et injuste un avis, par exemple, en général des avis polémiques, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, essayer de faire encore plus d'efforts et puis
mais est-ce que ce n'est pas sa nature à Facebook de d'amplifier certaines opinions, certains mouvements donc c'est contre nature de réguler ça.
Alors, c'est pas contre nature, ça va à l'encontre du modèle économique. Et c'est pour ça que je pense qu'on arrive au bout d'un chemin, mais je pense qu'ils le savent, hein, c'est pas nouveau, et qu'on va devoir reprendre ces différents modèles économiques pour revoir justement, parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur, encore une fois, le partage de contenu de manière accélérée sur des temps courts, sinon on va ne mettre que en avant des contenus transgressifs, polémiques, haineux et violents.
Ce que vous dites dans votre livre Aurélie Jean, c'est que dire qu'il faut réguler, c'est méconnaître les algorithmes. Mmh. Bah alors on fait quoi ? Si on peut pas réguler.
Alors, on ne peut pas réguler un algorithme, Marion. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas l'évaluer dans la majeure partie du temps. Pourquoi ? Dans la grande partie du temps. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, en fait, a une logique de fonctionnement qui est souvent implicite et qu'on a difficile. On peut extraire une partie, mais pas tout.
Donc, faut le changer.
Pardon ?
Faut le changer. Faut en faire un autre, en fait.
Alors, non, on peut le garder. Non. Par contre, ce qu'il faut réguler, non pas l'algorithme, mais les pratiques algorithmiques, c'est-à-dire les pratiques de développement, les pratiques de test. Le test est fondamental ici, c'est-à-dire qu'on voit, on n'en a pas parlé, mais il y a eu des cas encore cette année de scandales, par exemple, où lorsqu'on on regardait une vidéo avec des personnes noires sur la vidéo, on avait des vidéos qui nous étaient suggérées avec des singes. C'est une erreur, c'est un biais algorithmique profond, discriminatoire, stigmatisant. Typiquement dans des cas comme ça, en fait, il y a des tests qui doivent être réalisés pour éviter que ça arrive. Et du coup, de ne pas déployer cette composante algorithmique dans l'outil utilisé par des dizaines de millions d'utilisateurs. Donc il y a vraiment il y a des tests et puis il y a des usages, c'est-à-dire de réguler quel type d'algorithme pour quel type d'usage, qu'est-ce qu'il faut au contraire faire attention ou parfois même interdire dans certains cas. Mais encore une fois, les régulations doivent encourager l'innovation tout en protégeant l'individu et c'est important, c'est ça qu'il faut retenir et l'Europe s'y intéresse aujourd'hui.
Oui, justement, ils doivent adopter un projet de règlement bientôt. Une dernière question, je vais vous demander une réponse très courte parce qu'on arrive à la fin. On n'abandonne pas les réseaux sociaux. C'est ce qu'avait dit ce qu'avait fait un cadre de Facebook pour ses enfants en 2017.
Écoutez, alors moi, personnellement, si j'avais des enfants, ils ne seraient pas sur les réseaux sociaux. Je vous dis ouvertement, mais c'est pour plein d'autres raisons. Hein, je veux dire, cela étant dit, je suis sur les réseaux sociaux. Non, je pense pas qu'il faut ne pas y aller. C'est juste que moi, je crois à ces médias alternatifs aussi, des médias de communication et autres. Et c'est juste qu'il faut arriver à bien les faire, et parce que là, on arrive au bout d'un chemin. Voilà.
Aurélie Jean, docteur en sciences et entrepreneur, auteur de « Les algorithmes font-ils la loi ?» aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir répondu sur France
Merci
Inter.
Merci à vous.
France Inter, le 13-14.
13h43 sur France Inter, dans quelques minutes, dernier épisode du feuilleton dans les marais salants de l'île de Ré, où comment le sel de l'île de Ré est revenu à la mode, notamment grâce aux cuisiniers du dimanche, du confinement. À suivre ensuite, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Le crime et le pardon au programme de votre vif de l'histoire avec un écrivain russe.
Dostoïevski, dont c'est le bicentenaire de la naissance le 30 octobre.
Rendez-vous juste avant 14h. Et tout de suite, c'est une chanson.
Bonjour Aurélie Sfez.
Bonjour Marion.
Dimanche, c'est Halloween. Alors vous avez tendu votre micro à un vampirologue, oui ça existe. Hein.
Et il s'appelle Jacques Sirgent. Il a traduit Dracula de l'écrivain britannique Bram Stoker. Il est toujours vêtu de noir, il adore la nuit, les cimetières et le sang.
Et côté chanson, hein, forcément, il est gothique. Il a choisi Billie Eilish, No Time to Die.
Pas le temps de mourir, c'est le tube du dernier James Bond choisi par notre vampirologue. Mais au fait, c'est quoi un vampirologue ?
Oui.
Je suis vampirologue, oui. C'est pas moi qui ai choisi ce titre, c'est la presse. Mais je revendique aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la symbolique du sang. Le pacte avec le sang, l'échange de sang qui symbolise l'amour éternel, comme pour le vampire d'ailleurs.
Et ça a commencé quand, cette passion des vampires ?
J'étais élevé dans un collège catholique irlandais où on fouettait les élèves tous les matins dès qu'ils posaient des questions auxquelles les professeurs n'avaient pas de réponse. On nous apprenait que toutes les femmes sont des démons. Le problème, c'est que tous nos profs étaient des femmes, des religieuses. Donc tous les matins, avant d'entrer en classe, je leur demandais pourquoi ça nous donne des démons comme profs. Et comme ils ne voulaient pas me répondre, j'avais 20 coups de lanière tous les matins. Et j'ai vu en même temps, à la même époque, le premier film de vampire, Nosferatu, à la télévision. Et je l'ai trouvé éminemment sympathique. Donc je me dis, lui qui est présenté comme le mal, c'est pas le mal pour moi. Alors c'est quoi ? C'est quoi le mal ?
Et vous avez choisi cette chanson, celle de Billie Eilish, No Time to Die. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson, Jacques Sirgent ?
Parce que j'ai un faible pour la manière dont Daniel Craig interprète James Bond, et je trouve que cette chanson illustre très bien, de manière métaphysique, la problématique de James Bond.
Mais quel rapport avec les vampires ?
Il est question de sang. Du sang qu'on verse, si on verse son sang, c'est qu'on le mérite. En gros, tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est votre faute.
Elle dit dans la chanson, c'est bien la preuve que le sang que tu perds est le sang que tu dois.
Le sang que tu verses, c'est toi qui as décidé, par ta faute, tu es responsable de ce qui t'arrive. Donc si j'étais malheureuse dans la vie, c'est de ma faute. Elle le dit d'ailleurs ailleurs dans la chanson.
No time to die, pas le temps pour mourir. Est-ce que James Bond est un vampire ?
Non, mais il risque sa vie pour sauver celle des autres. Donc il immortalise les autres en quelque sorte. Il prolonge leur vie comme un vampire. Donc quelque part, oui.
Aurélie, faites voir votre coup. Est-ce que Jacques Sirgent vous a mordu après l'interview ? Non,
alors,
apparemment pas.
Non, mais il m'a proposé. J'ai décliné. Je me sentais pas prête. Mais au fond, est-ce qu'il y croit vraiment, lui, à tout ça, à ces histoires de vampires ?
J'aimerais y croire. Métaphoriquement, j'y crois. Je crois à l'amour éternel. Par contre, ça, c'est vrai. Même au-delà de la mort. Mais je crois pas aux vampires, non.
Est-ce que vous vous aimez d'un amour éternel ?
Oui. J'ai vécu ça. Je vis ça et j'ai de la chance.
Vous vivez ça au présent ?
L'être aimé, c'est réincarné. Ça paraît incroyable, mais j'ai vécu ça, je vis ça.
L'être aimé s'est réincarné en quoi ?
Dans une autre femme, qui est presque la même, mais différente, mais qui a le même passé en quelque sorte. J'aime une femme qui a eu exactement presque la même vie que la femme que j'aimais dans le passé. C'est incroyable, mais c'est vrai.
Et elle le prend bien, la nouvelle femme ?
Ça a été difficile, mais oui.
C'est très bizarre.
Parce qu'elle a suffisamment de différence et de qualité pour accepter.
Jacques Sirgent, qui sont les monstres réels ?
Vous voulez des noms ? Adolf Hitler, Staline, parlons de Trump. S'il avait été réélu, je pense qu'il aurait fait des trucs, voilà. Quand on est soi-même monstrueux et qu'on veut faire une diversion, on accuse le voisin d'être pire que soi. Le bouc émissaire, en quelque sorte. Dont on charge de tous les crimes, dont on veut se débarrasser soi-même, mine de rien, en se donnant bonne conscience.
Si jamais un jour vous croisez un vampire, qu'est-ce que vous lui direz ?
Je lui demanderais s'il le choix de ses victimes. Parce que quand on mord quelqu'un de méchant, on immortalise quelqu'un de méchant. Tandis que quand on mord quelqu'un de gentil, on en fait quelqu'un d'immortel. Donc il faut choisir ses victimes.
Vous lui conseilleriez de mordre quelqu'un de gentil ?
Ah oui.
No Time to Die de Billie Eilish, c'est le choix du vampirologue Jacques Sirgent pour fêter Halloween ce dimanche.
Et si vous aimez les histoires rocambolesques et les frissons, Jacques Sirgent propose au public d'étonnantes visites du cimetière du Père Lachaise. Quant à moi, je vous laisse, je file dans la crypte de la maison de la radio.
Et vous pourrez y organiser une petite fête pour terminer cette semaine de C'est
avec
une
plaisir.
Chanson. Merci de nous avoir accompagnés Aurélie.
À bientôt Marion.
À bientôt. À 13h, presque 49 sur Inter, dernière escale dans les marais salants de l'île de Ré. Cette année, la récolte est dans la moyenne, malgré la pluie que vous avez entendu tomber tout au long de ce feuilleton. Nous allons retrouver Darren, dernière arrivée chez les sauniers en reconversion. Mais d'abord, rendez-vous avec son patron. Lui aussi est très impliqué dans la coopérative des sauniers depuis l'île de Ré, Et si l'activité était menacée dans les années 80, depuis, le sel et la fleur de sel s'épanouissent. Ils ont même profité de la crise sanitaire.
En fait, j'ai deux marais côte-côte qui s'étendent sur une superficie d'à peu près 7 hectares. Il y a 142 aires sonnantes, donc ça commence à être une grosse exploitation. Moi, je me suis installé en 2012. Je suis venu en tant que saisonnier et j'ai fait trois saisons. Et ensuite, comme les copains ont cru en moi, ils m'ont proposé de m'installer et m'ont proposé du foncier.
Comme tout saunier, vous avez aussi une cabane.
On est en train de se prendre une averse. Ça nous ramène un peu au côté compliqué du travail. On ne sait pas quand la saison commence et on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Et il y a des très belles années et des très mauvaises années.
Donc je vous suis, on arrive dans la cabane en bois.
Alors ma cabane, vous avez de la chance, elle a bien changé cette année. Il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était juste un gourbi, on pourrait dire.
Donc il y a un petit canapé dans le fond.
Pour se reposer. Et puis il y a un petit meuble avec un réchaud aussi pour pouvoir se faire chauffer le café. Et puis on voit un vélo aussi, là, on est sur l'île de Ré.
Les confinements dus à la crise sanitaire ont pu susciter de nouvelles vocations de sauniers. Ils ont aussi fait vendre plus de sel.
Oui, on s'est retrouvé avec une demande supérieure aux autres années. On a expliqué ça par l'effet Covid. Les gens se retrouvent coincés chez eux et donc cuisinent plus, utilisent plus de sel. Et d'un autre côté, avec la fermeture des frontières, la grande distribution s'est retrouvée bloquée au niveau de leur approvisionnement et donc se sont tournés un peu plus vers nous. Ce qui fait que, du coup, ils se sont rendus compte que même si le sel était un peu plus cher, il se vendait bien. Ce qui fait que les contrats ont été confortés par la suite. Dans notre modèle de coopérative, on a beaucoup de double actifs. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui font du marais à la belle époque et à l'hiver qui ont un autre travail. Parce que pour vivre du sel, il faut quand même aller chercher des grosses exploitations. Après, on est quelques monoactifs qui ne vivons que de ça. Et personnellement, j'ai envie de vous dire que je m'en sors très bien. Il faut se rendre compte que l'activité salicole, elle a pratiquement disparu. Fut un temps, donc la transmission, elle ne s'est pas vraiment faite. Au niveau des retraités en tout cas, et ce sont plutôt des gens qui sont venus de l'extérieur pour s'installer. Donc la plupart ont été quand même pris en main par des anciens parce qu'ils ne voulaient pas que cette activité disparaisse. Et du coup, depuis, ça se passe toujours comme ça, des nouveaux arrivent et prennent la place des personnes qui partent.
Pour l'instant, je vois qu'il y en a un peu trop de flotte, donc voilà. Je pense qu'il va falloir un moment avant qu'on remette la métier à couler. Est-ce que tu veux qu'on pompe?
Oui, ça c'est clair, ça va être ça que vous allez devoir surveiller en premier. Parce que tu vois toutes ces aires noyées là.
Ouais.
Maintenant il est tombé 15 mm, mine de rien, il y a un peu d'eau. Hein.
C'est vrai qu'il va faire beau en plus la semaine prochaine.
On retrouve Darren Chambon qui est saisonnier et qui se forme avec Hugues Le Prince. Darren, quand on devient saunier, c'est un travail solitaire, mais il y a la coopérative et il y a tout un collectif avec vous.
Exactement, quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. On m'a présenté en fait les gens qui naviguaient autour du marais et de la coopérative. Et on se fait un réseau comme ça, on découvre un petit peu le microcosme des marais et les gens qui le peuplent. Et c'est super intéressant parce que, comme la plupart des sauniers ont des parcours très atypiques, les artistes, par exemple, quelqu'un qui a fait les beaux-arts et qui s'est installé dans son marais.
Un archéologue, un informaticien.
Un ingénieur en nucléaire. C'est le métier avec le plus de profils différents que j'ai pu rencontrer.
Darren Chambon et son patron Hugues Le Prince dans ce dernier épisode d'une semaine dans les marais salants de l'île de Ré, feuilleton de Sarah Guibaudot réalisé par Lucie Lemarchand, à retrouver en son et en image sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, 13h53, c'est votre vif de l'histoire. Le grand écrivain russe Dostoïevski est né en 1821, le 30 octobre exactement. Ce bicentenaire fait l'objet de votre intelligence service ce samedi.
Je commencerai bien, Marion, par la fin, 1881, sa mort à 60 ans. Il avait été dans sa jeunesse l'adversaire du servage et le tsar Alexandre II, qui l'abolit, verse à sa veuve une pension pour service rendu à la littérature. C'est un fait unique dans les annales. Le prédécesseur d'Alexandre, Nicolas Ier, avait envoyé Dostoïevski au bagne en 1849. Les survivants de son cercle de comploteurs marchent, en 1881, en tête de son enterrement, où les étudiants sont très nombreux. Certains ont, en guise de couronne, apporté des fers du bagne sur un coussin. Mais les autorités ne les ont pas laissés approcher parce que les autorités sont là, elles aussi. Il y a belle lurette que Dostoïevski a renié le socialisme. Et face à ce cortège long d'un kilomètre qui regroupe toutes les familles spirituelles de la société russe, un pope dit « L'œuvre du mort, Crime et châtiment, l'idiot, les frères Karamazov, c'est l'illustration du sermon sur la montagne, bienheureux les pauvres, n'a-t-il pas écrit aussi, humiliés et offensés ?»
Et les pauvres gens, un autre de ces titres écrasés par le poids des malheurs mais aussi de leurs fautes et qui tentent de le soulever.
Le crime et le pardon, c'est l'angoisse de Dostoïevski. Alors il est bien des sortes de crimes, le parricide, parce qu'il s'est accusé d'avoir joué un rôle dans la mort tragique de son père assassiné par ses serfs. Dans Crime et châtiment, l'étudiant famélique Raskolnikov pense pouvoir assassiner une vieille usurière de son voisinage, comme on se débarrasse d'un encombrant sans en éprouver de culpabilité. Mais le remords le rejoint. Alors il y a aussi les crimes imputables à l'idéologie révolutionnaire que Dostoïevski en est venu à maudire. La comédie française, pour son bicentenaire, représente les démons. Les personnages en sont des nihilistes qui se croient au-delà du bien et du mal. Et persuadés au départ de leur liberté illimitée, ils en arrivent à la conclusion à défendre une dictature illimitée.
Mais le crime qui interroge le plus Dostoïevski, c'est celui commis sur les enfants.
Tel ou tel de ses contemporains le soupçonnait de ne pas être innocent en la matière. Alors il semble que très jeune, Dostoïevski ait assisté au viol d'une fillette et qu'il en ait été marqué au point d'en faire un thème récurrent, en effet, de ses livres. Les frères Karamazov, qui vivent pourtant dans une famille passablement dégénérative, où rôde le parricide, s'effraient des récits de torture d'enfants par leurs parents qu'ils lisent dans les gazettes. Et dans les démons, toujours, il s'avère qu'un des personnages principaux, Stravogin, a violé une adolescente de 12 ans, qui ensuite est allée se pendre. Mais enfin, il reste un peu de sens moral à Stravogin et il s'en va se confesser chez l'évêque Tikhon.
Mais cette scène-là n'est pas représentée dans l'adaptation de la comédie française.
Alors, c'est pas étonnant parce qu'elle ne figurait pas dans le texte du livre pendant un demi-siècle. Dostoïevski avait livré les démons en feuilleton et le directeur de la revue qui les publiait a refusé par deux fois les versions de cette confession que lui présentait Dostoïevski. Même en suggérant que Stravogin ne disait que la moitié de la vérité, ce qu'il énonçait n'était littéralement pas publiable. Alors Dostoïevski a fini par contourner l'obstacle et a continué le récit sans la confession qui n'est réapparue qu'à la découverte de ses papiers en 1922. Alors que cette scène ait été omise à la comédie française, c'est compréhensible. Néanmoins, André Markovitch, qui a renouvelé les traductions de Dostoïevski en français, affirme « c'est la scène géométrique centrale qui structure le texte autour de ce nœud d'angoisse. Qu'est-ce qui est pardonnable ? L'absolution est-elle toujours possible ? Et après tout, l'évêque Tikhon n'était pas obligé de la donner. »
Et Dostoïevski laisse souvent ouverte la question du pardon.
Le sort de Raskolnikov, par exemple, reste en suspens. À la fin de Crime et châtiment, y a-t-il d'ailleurs une fin de Crime et châtiment ? Sonia, l'équivalent de Marie-Madeleine, s'offre pour le secourir et lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait de vous à propos du crime contre l'usurière ?» Oui, qu'est-ce que Raskolnikov a-t-il fait de lui, et jusqu'à la fin de sa vie, Dostoïevski regrettera de ne pas avoir continué jusqu'au bout le portrait de Raskolnikov.
Dostoïevski dans le vif de l'histoire, et demain dans votre émission, Jean Lebrun, Intelligence Service, à quelle heure ?
Eh bien, 18h et des poussières.
Eh bien, demain, dans quelques minutes sur Inter, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
Le vendredi, c'est le club.
Ah, évidemment, et on parle dinosaures, bande dessinée sur Instagram, et on discutera aussi autour des animaux à la cour de Versailles.
Rendez-vous dans quelques minutes. En attendant, une avalanche de merci pour cette semaine de 13-14. À la rédaction en chef, merci à Sarah Guibaudot, Estelle Schmitt et Mathilde Imberti, assistées de Claire-Sophie Collet, Nicolas Sabat, Benjamin Ducy et Rachid de Zourdani. Derrière la console, merci à Loïc Frapsos et Louis Audebert, ainsi que Grégory Wallon. Et merci enfin aux standardistes de France Inter, Martin Réglet et Jade Riahi.